Les informations avec Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. 20e vendredi de manifestation contre le pouvoir à Alger et à nouveau une forte mobilisation. Vous entendrez dans un instant le reportage de Leïla Berhato. Drôle de climat pour ce bac 2019. Conséquence du bras de fer entre les correcteurs grévistes et le ministère. Certains élèves ont aujourd'hui des notes provisoires. Nous ferons le point sur la situation avec Théo Conscience. Est-ce un signal du changement de méthode annoncé pour l'acte 2 du quinquennat? La salle de presse de l'Élysée restera finalement dans la cour du palais présidentiel. Fin d'une polémique et analyse de Stéphane Robert. Une foule immense à nouveau dans les rues d'Alger pour le 20e vendredi de manifestation. Depuis la démission d'Abdelaziz Bouteflika sous la pression de la rue et de l'armée, les contestataires refusent que le système en place organise la présidentielle et ils réclament le départ de tous les soutiens de l'ex-président. Le reportage de Leïla Berhato dans la capitale algérienne.
Ils étaient des dizaines de milliers dans les rues de la capitale. Une mobilisation que l'on n'avait pas vue depuis le mois d'avril. Assia a manifesté le 8 mars et aujourd'hui.
On voudrait une autre indépendance, une nouvelle indépendance. On pense à notre jeunesse. C'est surtout pour cette jeunesse.
À 57 ans, Assia voudrait voir du changement.
Des jeunes. Et un nouveau président, un nouveau gouvernement. Et l'honnêteté surtout, l'honnêteté.
Les manifestants scandent « État civil, pas militaire », demandent le départ du chef d'état-major et la libération des prisonniers politiques. Fatih et Rachida, elles, étaient présentes le 5 juillet 1962. 57 ans plus tard, elles sont ravies de voir autant de jeunes dans le cortège.
Ça nous met un baume au cœur de voir toute cette jeunesse. Et on est heureux. On a beaucoup d'espoir en eux. Ils sont matures, ils sont politisés, ils ont évolué. C'est une jeunesse du 21e siècle qui demande son indépendance, sa liberté.
Le dispositif sécuritaire était similaire à celui de la semaine passée. Au moins 3 personnes ont été arrêtées, notamment à cause de pancartes contre l'armée.
Leïla Berhato à Alger. Au Soudan, des scènes de liesse ont accueilli l'annonce d'un accord politique entre l'opposition et le Conseil militaire de transition au pouvoir depuis la chute du président Omar el-Béchir. Après 2 mois de blocage, ils se sont entendus sur un partage de pouvoir durant une période de transition d'environ 3 ans, devant mener à des élections nationales. Un conseil souverain, composé de militaires et de civils, doit diriger cette transition. Sur le papier, c'est une bonne chose, nous dit l'ethnologue Christian Delmette, spécialiste du Soudan et chercheur associé au Centre d'études des mondes africains. Il émet toutefois quelques réserves.
C'est un grand progrès, mais en même temps, je suis un peu inquiet parce que Emeti, le numéro 2 du régime, dit « tout le monde sera content, sera satisfait, on va faire plaisir à tout le monde ». Ça veut dire que la négociation pour lui ne se résume pas, et ça on le savait, entre l'alliance pour le progrès et la liberté et les militaires. Lui et d'autres veulent inclure les anciens partis, ceux qui n'ont pas manifesté et ceux qui étaient au pouvoir. Donc, à ceux qui pensent que la coalition populaire a vaincu, a gagné, il y a ceux en face qui disent « oui, mais tout le monde doit participer au règlement pour la paix ». Alors là, ça me fait penser qu'il y aurait des grincements possibles, tout comme il pourrait y avoir des grincements entre l'armée et les unités d'intervention rapide.
Christian Delmette, qu'est-ce qui a débloqué les choses ?
On a dû convaincre les militaires qu'il ne fallait peut-être pas risquer une étincelle qui est là, déclencherait des choses absolument effroyables. Je ne sais pas, c'est une sagesse subite, on va se dire. Hein. Mais je crois que c'est tout de même la pression, pas internationale, parce que tout le monde n'y était pas. Mais c'est l'Union africaine, l'IGAD et les Américains qui ont dû mettre un petit peu de plomb dans la cervelle des militaires et des ultras avant pour éviter qu'ils s'en mettent un petit peu ailleurs de la mitraille.
Christian Delmette, interrogé par Mathieu Laurent. La haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme dénonce l'érosion de l'état de droit au Venezuela, pointant les détentions arbitraires, disparitions forcées, tortures, viols, exécutions extrajudiciaires. Michel Bachelet accuse le régime de Nicolas Maduro de mener une véritable campagne de neutralisation de ses opposants. Caracas nie en bloc et affirme que ce rapport est truffé d'erreurs et d'approximations. Un rapport dont vous nous rendez compte, Jérémy Lange.
Toutes les victimes interrogées par les enquêteurs évoquent la même scène. L'arrivée chez elles des forces spéciales dans des gros pick-up noirs, le visage masqué, les armes à la main et l'exécution en quelques minutes des hommes, pour la plupart des jeunes. En 2018, 5287 personnes ont été tuées pour résistance à l'autorité au cours de ces opérations de sécurité, selon les chiffres mêmes de Caracas. Tous n'étaient pas des opposants à Nicolas Maduro, mais la pratique illustre, selon la haut-commissaire aux droits de l'homme Michelle Bachelet, la dérive du régime vénézuélien.
Il y a une érosion des institutions et de l'état de droit au Venezuela. L'exercice de la liberté d'opinion, d'expression, tout rassemblement, toute participation à la vie publique peut entraîner une répression. Notre rapport montre que ceux qui s'opposent au pouvoir ou ceux qui sont perçus comme des contestataires ou des défenseurs des droits de l'homme sont des cibles. Ils s'exposent aux menaces, aux détentions arbitraires, aux tortures, aux agressions sexuelles, aux disparitions forcées et aux meurtres.
Des accusations graves, rejetées en bloc par Caracas, le représentant du Venezuela au Conseil des droits de l'homme demande que le rapport soit modifié car il ne reflète pas, dit-il, la réalité.
Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme salue tout de même la libération de 22 personnes par le gouvernement vénézuélien, une magistrate, un journaliste et des étudiants. La commission d'éthique du Comité international olympique se penche sur les accusations de l'ancien gouverneur de Rio, Sergio Cabral. Selon lui, Sergueï Boubka et Alexander Popov avaient touché des pots de vin lors de l'attribution des Jeux olympiques de 2016 à Rio. Les deux anciens champions démentent vigoureusement ces accusations, Vincent Pellegrini.
C'est en 2009 que Rio a obtenu l'organisation de ces JO 2016 à l'issue d'un vote qui n'a pas fini de faire des vagues. À l'époque, le plus grand perchiste de l'histoire, Sergueï Boubka, est le président du Comité national olympique ukrainien et Alexander Popov est un membre éminent de la commission des athlètes du CIO. Tous deux ont vivement réagi aux accusations de Sergio Cabral. « Je n'ai même pas voté pour Rio », a déclaré Alexander Popov. De son côté, Sergueï Boubka a complètement rejeté ces accusations, précisant que l'ancien gouverneur de la ville de Rio purgeait actuellement une longue peine de prison pour corruption. C'est en effet devant un juge brésilien que Sergio Cabral a mis en cause Sergueï Boubka et Alexander Popov. Il a précisé que c'était l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, Lamine Diak, qui avait arrangé cet achat de voix en distribuant au total 2 millions de dollars à des membres du CIO. Lamine Diak est actuellement en attente d'un procès devant le tribunal correctionnel de Paris qui le soupçonne d'avoir été au centre d'un vaste système de corruption destiné à couvrir des cas de dopage de nombreux athlètes russes.
Soulagement ou déception, les candidats au bac sont maintenant fixés. Tous ont bien reçu des notes aujourd'hui, malgré la grève de certains correcteurs opposés à la réforme du baccalauréat. Mais pour environ 40 000 élèves, les résultats sont provisoires. Près de 1% des copies du baccalauréat n'ayant pas été rendues, le ministère de l'Éducation a décidé que les notes manquantes seraient provisoirement remplacées par les notes de contrôle continu. En théorie, car dans plusieurs académies, des notes ont été inventées. Sophie, enseignante à Paris, en a été témoin.
J'étais convoquée pour une réunion d'harmonisation des notes du baccalauréat. Il s'agit alors de valider l'ensemble des notes que les correcteurs ont mis aux copies. Et il manquait des copies d'enseignants grévistes qui n'avaient pas rapporté leur lot. On a attendu un certain temps et puis on a fini par nous expliquer que pour les élèves dont il manquait une copie ou deux copies, on allait mettre la moyenne des notes obtenues à l'année que l'on peut avoir par les livrets scolaires. Il s'avère qu'on n'a pas toujours en commission ces livrets scolaires. Et on a dit qu'est-ce qui se passe si nous n'avons pas les livrets scolaires. On nous a dit qu'à ce moment-là, il fallait mettre selon nous une note cohérente en s'appuyant sur les notes aux autres épreuves du bac. Donc ça voulait dire qu'un élève, par exemple, pouvait se voir attribuer une note en mathématiques coefficient 7 en s'appuyant sur des notes de matières qui n'ont strictement rien à voir, comme la philosophie, le PS, l'histoire-géographie. Ce qui nous a un petit peu scandalisés. Et donc, avec les collègues, nous avons refusé de siéger. Et ça, c'était le cas dans plusieurs commissions en région parisienne et ailleurs en France, avec des jurys qui ne se sont pas tenus normalement.
Sophie, que vous avez jointe cet après-midi, Théo Conscience, bonsoir.
Bonsoir Aurélie.
Jean-Michel Blanquer n'a pas apprécié les méthodes des grévistes. Il estimait hier que seulement 0,35% des correcteurs avaient décidé de ne pas rendre leur copie. Il a donc voulu leur montrer qu'il tenait bon. Mais les cafouillages, voire les manipulations, pourraient ouvrir la porte à des recours en justice pour les candidats qui s'estimeraient lésés.
Oui, et c'est là que la solution du contrôle continu imaginée par Jean-Michel Blanquer pose problème. Il faut distinguer ici deux cas de figure. Le premier est lié au témoignage que nous venons d'entendre. Si ces accusations de falsification de notes venaient à être prouvées, elles pourraient fournir des arguments aux candidats dont les copies ont été retenues pour contester leurs résultats, pour peu encore une fois que ces manipulations soient avérées dans leurs académies. Le second cas de figure concerne au contraire les candidats qui ont été épargnés par la rétention de copies. Ils pourraient considérer qu'ils ont été désavantagés. Ils sont en effet évalués uniquement sur leurs notes à l'examen final. Leurs camarades dont les copies ont été retenues en revanche sont évalués sur deux notes, celle du contrôle continu et celle de l'épreuve finale quand elle sera connue. Or, seule la meilleure de ces deux notes sera définitivement prise en compte. Un avantage sur n'importe quel candidat qui aurait eu une meilleure note au contrôle continu qu'à l'examen final, mais qui n'aurait pas eu la malchance ou la chance de voir sa copie retenue par un correcteur gréviste. Pour beaucoup de parents, il s'agit là d'une rupture du principe d'égalité qui pourrait ouvrir la voie à des recours devant le tribunal administratif.
Théo Conscience, le gouvernement affiche sa fermeté face aux enseignants, mais il fait preuve d'une souplesse inédite à l'égard des journalistes. On a appris cet après-midi que la salle de presse de l'Élysée n'allait finalement pas déménager. Il était pourtant prévu qu'elle sorte de l'enceinte du palais présidentiel. Aujourd'hui, Stéphane Robert, l'Élysée fait marche arrière.
Oui, c'est le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Keller, qui a informé cet après-midi l'association de la presse présidentielle qu'Emmanuel Macron finalement renonce à faire fermer la salle de presse qui se trouve à l'intérieur du palais de l'Élysée. Il avait décidé cette fermeture en juillet 2017, deux mois après son élection. Pour la présidente de l'association de la presse présidentielle et correspondante de l'agence Reuters, Elisabeth Pinault, c'est le signe que la relation tendue depuis deux ans entre les journalistes et le chef de l'État est en train de se normaliser.
Je pense que c'est l'aboutissement d'un processus, ça s'inscrit quand même dans un contexte de détente entre le président et les journalistes. On a eu l'affaire Benalla l'été dernier, il y a eu également la crise de cet hiver, la grave crise des Gilets jaunes qui a beaucoup secoué le pouvoir, beaucoup secoué les médias également et qui a fait réfléchir tout le monde, je pense que ça a joué. Il y a aussi les changements à la communication de l'Élysée, le départ de Sibeth Ndiaye qui avait pris ce dossier très à cœur. Et puis, il y a eu d'autres signes, la conférence de presse du 25 avril, la première du président de la République à l'Élysée. Ça montre bien quand même qu'il fait comme faisaient les présidents avant, c'est-à-dire donner des conférences de presse. Voilà, donc ce geste est l'aboutissement de séquences différentes. En tout cas, il y a une volonté d'apaisement et nous saluons cette volonté d'apaisement.
L'actuelle salle de presse à l'intérieur du palais présidentiel sera réduite, mais restera accessible, en particulier aux correspondants permanents des quatre agences de presse que sont l'AFP, Reuters, Associated Press et Bloomberg. L'Élysée indique qu'il y aura par ailleurs une autre salle de presse à l'extérieur pour accueillir les autres journalistes lors d'événements ponctuels.
Stéphane Robert, des réquisitions accablantes contre les anciens dirigeants de France Télécom jugés pour harcèlement moral 10 ans après des suicides de salariés. À la fin des années 2000, le départ de 22 000 salariés et la mobilité de 10 000 autres étaient devenus une obsession d'après les procureurs. Le compte-rendu d'audience d'Antoine Marette.
La première partie du réquisitoire est longue, parfois très technique, à l'image de ce qu'ont été ces presque 2 mois d'audience. Elle est ponctuée d'anglicismes, cash flow, crash programme, manager, des anglicismes parfois utilisés par la direction pour euphémiser la dureté de la politique de l'entreprise et en particulier ses objectifs intenables, 22 000 départs et 10 000 mobilités en 3 ans. Les prévenus savaient que les plans Act et Next déstabilisaient les salariés de France Télécom et selon la procureure, l'entreprise n'était pas dans une situation de crise extrême qui pouvait justifier cela. Elle regrette le comportement des dirigeants pendant le procès. Ils ont peu évolué dans leur stratégie de défense. Ils ont continué à affirmer que cette contrainte n'était pas négociable. Ils restent persuadés qu'ils n'ont fait qu'accompagner l'évolution de l'entreprise. Sauf que selon la représentante du ministère public, ils ont été des sortes d'apprentis sorciers. Ils ont mis en place un néo-taylorisme sans mesurer ses effets sur le personnel. Et à propos des prévenus qui rejettent parfois des responsabilités sur des managers ou qui pratiquent l'évitement, elle s'indigne. À quoi ça sert d'être un chef si vous n'assumez rien ? Applaudissements dans la salle d'audience, bref rappel à l'ordre de la présidente. La procureure évoque un procès historique en s'adressant au juge. Vous allez faire œuvre de jurisprudence. Et elle conclut la première partie du réquisitoire par une phrase choc. Le harcèlement moral est mon métier. Voilà comment les prévenus auraient pu qualifier leurs agissements.
Antoine Marette au Palais de Justice de Paris. Les terres et mers australes françaises viennent d'être classées au patrimoine mondial par l'UNESCO au titre du patrimoine naturel. Le site classé s'étend sur 673 000 km² dans le sud de l'océan Indien. Les terres et mers australes françaises comptent la plus forte concentration d'oiseaux marins au monde, la plus grande diversité d'oiseaux et mammifères marins et de splendides paysages volcaniques. Ségolène Royal, ambassadrice des pôles, voit dans cette décision un signal très fort pour la préservation de la biodiversité. Demain samedi, Météo France prévoit un ciel variable et une tendance aux orages de l'Aquitaine au centre-est et au nord-est. Le soleil dominera près de la Méditerranée. Il fera de 10 à 20 degrés au petit matin du nord au sud, 23 en bord de Méditerranée. Les maximales iront de 19 dans le Finistère à 36 dans le sud-est. Ce journal a été préparé avec Julien Loquet.